Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce programme préparé par la rédaction française de Radio Prague. Dès que le format dépasse la largeur de mes épaules, je suis plus à l'aise, dit Franta, une artiste franco-tchèque qui sera l'invité d'Anna Kubishta dans Culture sans frontières à l'occasion de ses deux expositions pragoises. Le 12 novembre dernier, notre rédaction a organisé une soirée littéraire et musicale à l'Institut français de Prague autour du poète et graveur Bohuslav Reinek. Retour sur cet événement avec Václav Richter dans le magazine Rencontres littéraires. Et puis, comme tous les 15 jours, Guillaume Narguet se penchera avec vous sur les particularités de la langue tchèque. Franta est le nom d'artiste de František Mertl, peintre et sculpteur français d'origine tchèque qui a fui la Tchécoslovaquie dans les années 1950. Installé depuis en Provence, il est représenté dans de grands musées dans le monde. En cette fin d'année 2012, deux expositions rappellent son travail à Prague, l'une à la galerie Nova Assigne, l'autre au musée Kampa. Anna Kubishta l'a rencontré.
Culture sans frontières.
Franta, bonjour.
Bonjour.
On s'était rencontrés il y a quelques années, hein, je crois en 2008 à Brno pour une exposition.
2009.
Donc vous exposez, même si l'essentiel de vos œuvres sont disséminées à travers le monde dans des grands musées comme le musée Guggenheim à Paris également, et puis vous exposez partout dans le monde, vous avez quand même des expositions heureusement ici dans votre pays natal. Est-ce que pour vous c'est important d'exposer ici en République tchèque ?
J'ai été privé pendant beaucoup d'années, plus que 20 ans. Le régime à l'époque considérait que je suis l'ennemi de la classe ouvrière. La situation a changé. C'est vrai que je suis plus souvent présent avec mon travail en France, où je travaille beaucoup en Allemagne, aux États-Unis aussi. La première proposition qui est venue, l'acceptait évidemment avec beaucoup de plaisir. Ça me crée quelquefois des surprises.
De quel type ?
Que je revois des amis que je n'ai pas vus depuis 60 ans.
Alors ici, justement, on se trouve au musée Kampa. Le musée Kampa, c'est un musée quand même qui expose, qui a une grande collection d'art tchèque. Et vous êtes exposé ici, c'est quand même, je pense, une grande exposition, non, pour vous, ici en République tchèque depuis le début,
moi,
depuis 89.
J'ai rencontré Mme Lantrova à Washington, D.C. J'avais une exposition là-bas, peut-être 83 ou 84. C'était le premier contact. On s'est rencontrés après quelques fois. Et quand mon premier séjour à Prague, après le changement, c'était pour la rencontrer ici. Et elle m'avait déjà, à l'époque, proposé mon travail. J'avais des projets qui ont été arrêtés déjà depuis longtemps. Et finalement, on a trouvé cette période qui me convient et qui me fait plaisir à la fois de montrer. Là, nous avons concentré le travail sculpture, les bronzes, et il y a des travaux sur papier, beaucoup de noir et blanc, les lavis, les encres de Chine.
Est-ce que vous pourriez un peu présenter aux auditeurs un peu votre travail ici ? Quelles sont les œuvres que vous avez sélectionnées pour cette exposition ? Là, par exemple, je vois, on est à côté d'une œuvre qui s'appelle Fukushima 2011, donc c'est vraiment une œuvre très récente.
C'était pas facile de faire le choix. Et il y a des thèmes. Le thème principal, c'est l'homme.
Votre occupation, voilà, occupation éternelle.
Je ne vais pas changer, je ne pense pas, parce que j'ai encore beaucoup de questions à me poser et à poser celui qui est en face de moi. Et la sculpture, que je crois qu'il y a une douzaine de pièces des bronzes, accompagne un petit peu mon travail de peintre, de dessinateur. Ça me restait à l'Académie des Beaux-Arts quand nous avons travaillé pendant 2 mois sur le dessin, sur la peinture. On nous a apporté la terre. nous a demandé de vérifier ou de compléter un petit peu la connaissance d'une tête ou d'un corps. Et ça me reste, j'ai des périodes où mes doigts demandent le contact, parce que c'est vrai que c'est sur un papier, sur une toile, on crée des volumes, mais ça reste toujours plat. Là, il y a cette possibilité
de travailler avec la trois dimensions,
de toucher le corps ou la tête, de le voir dans sa, à la fois dans sa complexité, dans son volume, voilà.
Parallèlement à cette exposition à Kampa, vous avez aussi une autre exposition à Prague, à la galerie Nova Signe. Est-ce que l'exposition fait pendant à celle de Kampa, ou est-ce que vous avez sélectionné quelque chose de totalement différent dans votre travail?
La proposition qui est venue de Nova Signe était plus récente, et je pense qu'elle complète un petit peu le regard sur mon travail, si vous voulez. Ici, évidemment, il est aussi limité, parce que ça fait 55 ans que je travaille, donc il y a de quoi jeter un coup d'œil. Mais étant donné que nous sommes restés ici sur le volume et sur beaucoup de dessins noirs et blancs, à Nova Signe, c'est que des peintures, particulièrement des grands formats, parce que tout en sachant que ça va me poser des problèmes, je n'arrive pas à me freiner. Là, il y a des toiles de 6 mètres carrés, de 4 mètres carrés.
Pourquoi justement des grands formats? Pourquoi est-ce que vous affectionnez autant les grands formats?
C'est vrai que quand j'ai commencé mes études, j'avais pensé d'abord ou bien faire l'architecture ou de faire la peinture. Il se trouvait que le concours à l'Académie des Beaux-Arts était avant le concours à l'architecture. J'ai été sélectionné, donc...
Le destin a choisi.
J'ai glissé sur de ce côté-là. C'est vrai que j'ai rêvé. J'ai fait aussi derrière les études de toutes les techniques qui permettent en collaboration avec l'architecture, les fresques, mosaïques, vitrages, graffiti.
Ce qui implique en général quand même des grands formats.
Des grands formats. J'ai eu très peu d'occasions parce que souvent l'architecte était emballé, mais après il y a celui qui met des sous, qui décide aussi. Donc j'en ai pas réalisé beaucoup. Par contre, il me reste cette envie de grand format, et vous savez, il y a une approche différente, on rentre dans la toile, il y a des gestes qui changent, et c'est vrai que dès que le format est un petit peu, me dépasse la largeur de mes épaules, je suis plus à l'aise.
Pour terminer, on disait tout à l'heure que l'homme est au centre de votre création, on le voit ici au musée Kampa, en fait on le voit dans toutes vos œuvres. D'où vient cette envie de décrypter l'homme? C'est finalement une question que se posent de nombreux artistes. Depuis la nuit des temps, vous apportez votre patte finalement à cette question. D'où vous vient ce besoin de toujours et encore comprendre l'humain?
Écoutez, bon, c'est vrai que la préparation à l'École des Beaux-Arts joue un rôle sûrement important, parce que nous avons eu la possibilité de faire l'anatomie et de travailler sur le corps, sur sa plasticité, sur la structure. Et j'ai pris le goût. C'est vrai que je n'arrêtais pas de créer l'image de l'homme. Ça m'a posé quelques problèmes en arrivant en France, parce que dans les galeries, je parle des années 59-60, on m'a répété souvent que la figure ça ne se fait plus.
C'est dépassé.
Voilà, c'est dépassé. Et il se trouve que j'ai continué sur ce que j'avais envie de à la fois questionner et de... Parce que aussi, il se trouve que peut-être dans ma vie, les hommes ont beaucoup compté. Ils m'ont créé souvent les difficultés et j'ai eu aussi quand même quelquefois le plaisir de vivre avec eux, de participer à ce qu'on appelle, je ne sais pas, la société. Aujourd'hui, l'existence est composée par des gestes, par des souhaits, par des envies, par des colères aussi. Je dois dire que Francis Bacon, dans les années 60-65, quand on a découvert le travail de cet artiste qui s'est tourné aussi exclusivement vers l'homme, ça a beaucoup changé. Je veux dire, dans les galeries, après, on répétait plus cette phrase, c'est dépassé, l'homme.
Est-ce que ce ne serait pas justement parce que au final, on s'est rendu compte que l'homme était aussi... vous dites en effet que l'homme peut être négatif, peut être quelqu'un qui pose des problèmes ou qui crée des situations néfastes, hein, par exemple. Mais est-ce que aussi, ce questionnement ne vient pas du fait que l'homme, le XXe siècle, finalement, a montré que l'homme était quelque chose de très fragile aussi, et que après trop d'abstractions... Et ce qu'on a vécu dans l'histoire du XXe siècle, je pense au communisme et au nazisme, a montré que l'homme pouvait être quelque chose de négatif, mais également un être très fragile qui pouvait disparaître en un clin d'œil.
Vous avez sûrement remarqué la première sculpture qui est à l'entrée de cette exposition. C'est un personnage de 2 mètres dans lequel, justement, j'ai essayé de mettre à la fois l'énergie que l'homme peut, la créativité, et en même temps sa fragilité. Et c'est vrai qu'au moment où j'ai travaillé sur cette pièce, il y a l'influence sur ce travail, c'était le décès d'un ami à moi qui était un athlète exceptionnel, champion de France en cyclisme. Et c'était au moment où, à peu près, j'étais au milieu de mon travail. Alors, vous imaginez que ça m'a reposé des questions. Normalement, on devrait pouvoir lire devant ces sculptures et peut-être de penser qu'on n'est pas éternel. Et on a tout intérêt, peut-être, pendant qu'on est là, de faire au mieux.
C'était le peintre franco-tchèque Franta dans Culture sans frontières. Je rappelle que l'exposition de son œuvre au musée Campa est à voir jusqu'au 9 décembre, celle de Nova Assigne jusqu'au 2 décembre prochain. On passe maintenant avec Guillaume Narguet à notre rubrique bimensuelle consacrée à la découverte de la langue tchèque.
Le tchèque du bout de la langue.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Rádia Praha.
Ce que possède peut-être de plus beau le mois de novembre en République tchèque est son appellation poétique.
Listopad.
Qui littéralement signifie la chute des feuilles, bien entendu des arbres. Pour le reste, une fois le bel automne riche en couleurs passées et en attendant la lumière des fêtes de fin d'année, ce mois de novembre, généralement marqué par la grisaille et des jours de plus en plus courts, ne constitue pas pour la majorité des Tchèques la période la plus réjouissante de l'année. Pour nous, c'est donc l'occasion parfaite de nous intéresser à l'étude du verbe
« smaths »,
rire, et à quelques-unes de ces variantes qui se forment à l'aide des préfixes. Un peu comme pour Milan Kundera avec son livre, il s'agira donc, à une échelle toutefois bien plus modeste, d'une émission du rire et de l'oubli, ou plus précisément du rire pour oublier la grisaille de novembre.
Smaths
peut à la fois signifier rire, sourire ou encore se moquer, mais son sens premier est bien celui de rire, comme par exemple dans l'expression
smaths na celé kolo,
qui signifie quelque chose comme rire à des kilomètres à la ronde et dont l'équivalent en français serait plutôt rire aux éclats, rire à gorge déployée, rire de toutes ses dents jusqu'à s'en décrocher la mâchoire. Certains rient non seulement des kilomètres à la ronde, mais aussi littéralement jusqu'à se prendre ou à se tenir le ventre.
Smějí se, až se za břicho popadá.
En français, on parlerait sans doute de rire comme un bossu, c'est-à-dire rire tellement que le dos se courbe, voire rire à ventre déboutonné, ou tout simplement rire jusqu'à en avoir mal au ventre. Inversement, même s'il n'existe pas d'équivalent en tchèque des expressions françaises, rire du bout des dents ou du bout des lèvres pour désigner un rire pincé, les tchèques sont néanmoins parfois quand même forcés de rire, bien qu'ils n'en aient pas envie. Ce faux rire ou ce rire à contre-cœur se dit alors
smát se nuceně,
soit rire avec réticence ou par contrainte. Il peut également être question de rire jaune. On parlera alors en tchèque de
hořký smích,
soit un rire amer. Rien de très original donc. Ce qu'il est bien plus, c'est l'expression
smát se jako měsíček,
littéralement sourire comme la lune. Bien sûr, il s'agira d'un quart de lune et non pas d'une pleine lune, en raison évidemment de la forme du quart de lune qui fait penser à un large et franc sourire. En français,
smát se jako měsíček
donnerait avoir le sourire jusqu'aux oreilles. Généralement, si on sourit comme la lune, c'est parce que l'on est heureux de vivre, de bonne humeur, en un mot, que l'on a la banane. Et finalement, la réflexion
smát se jako měsíček
se rapproche dans un certain sens de l'expression avoir la banane, en raison dans les deux cas, encore une fois, de la forme similaire du sourire. Mais avant d'en arriver à tous ces états, encore faut-il d'abord se mettre à rire. Pour cette notion de commencement est employé le verbe pronominal
rozesmát se,
c'est-à-dire
dát se do smíchu.
Certaines fois, de quelque chose ou de quelqu'un, on rit de bon cœur.
Zasmát se od srdce.
Et quand, inversement, l'action consiste à faire rire quelqu'un d'autre, à le dérider, à l'égayer ou à amuser la galerie, il s'agit alors de
rozesmát.
Když se topím ve tvých očích, hlava se mi lehce točí. Ty jsi ta pravá z dívek, které znám, co znám. Úsměv tvůj mi dneska stačí, nesluší ti, když...
Comme le chante Andrzej Rummel dans sa chanson intitulée
Úsměv,
un sourire, ton sourire me suffit aujourd'hui. Et vous vous doutez bien qu'il en va du sourire d'une femme. Si un petit sourire peut donc suffire au bonheur et à illuminer un cœur ou une journée, dans d'autres circonstances, cependant, on se contente seulement de sourire.
Usmát se.
Ça ne peut même être qu'une ébauche de sourire
po usmát se,
qui peut ressembler à une forme de politesse ou à un sourire timide, mais on peut aussi esquisser un sourire forcé, distant ou réservé, par exemple lorsque l'on voit ou croise quelqu'un que l'on ne connaît pas bien ou que l'on n'apprécie guère. Très loin donc de quelqu'un qui sera
vysmátý.
Un adjectif très intéressant, car bien qu'il soit fréquemment utilisé, on n'en trouve trace dans aucun dictionnaire. Pourtant, il existe bien le verbe
vysmát se,
qui signifie se moquer. Mais curieusement, l'adjectif qui en découle n'a sémantiquement pratiquement rien à voir, même si bien entendu, la notion de rire demeure. En fait, à l'origine, un tchèque
vysmátý
est un tchèque qui a fumer de l'herbe, un des effets de la fumette de cannabis ou si vous préférez d'une cigarette magique ou rigolote étant l'apparition d'une légère euphorie accompagnée d'un sentiment d'apaisement et d'une envie spontanée de rire. Mais ce n'est pas là le sens unique du mot
vysmátý,
qui peut également désigner quelqu'un de bonne humeur qui n'aura cependant pas consommé de drogue ou encore quelqu'un qui aura su tirer profit immoralement de quelque chose en toute impunité. Dans tous les cas, on retrouve la notion de contentement, de satisfaction, une notion que les Tchèques aiment à qualifier avec un mot qui n'appartient qu'à eux et que nous avons déjà évoqué dans une émission précédente, le mot peut-être foncièrement le plus tchèque de tous,
pohoda.
Pohoda, klídek a tabáček, vzpomínat na to, co se událo.
C'est donc en étant
bismati
et
v pohodě
que s'achève ce check du bout de la langue du rire et de l'oubli ou du rire pour l'oubli. On se retrouve dans 15 jours avec le sourire et le cœur à rire. D'ici là, portez-vous du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil et un quart de lune en vous.
Mějte slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj. Le 12 novembre dernier, la rédaction française de Radio Prague a organisé une soirée littéraire et musicale à l'Institut français autour du poète et graveur Bohuslav Reinek. Retour maintenant sur cet événement, ce sera avec Václav Richter.
Rencontre littéraire.
Dans la culture tchèque du XXe siècle, il est peu de personnalités aussi attachantes et aussi secrètes que le poète, graveur et traducteur Bohuslav Reinek. Le 12 novembre dernier, la section française de Radio Prague, en coopération avec l'Institut français de Prague, a consacré une soirée littéraire à cet artiste qui a vécu pendant la majeure partie de sa vie dans une ferme isolée du plateau tchéco-morave et qui a créé, malgré l'hostilité des autorités de l'époque et les coups de sort, une œuvre qui, plus de 40 ans après sa mort, ne cesse d'étonner et d'intriguer. Nous avons rassemblé des documents sur les facettes connues et moins connues de la personnalité de Bohuslav Reinek, avons invité des témoins de sa vie et connaisseurs de son œuvre, avons présenté ses vers et aussi plusieurs de ses poèmes mis en musique. C'est notre collègue Magdalena Hrozinková qui est l'auteur du projet et qui a présenté la soirée Reinek à l'Institut français de Prague. Voici ce qu'elle dit à propos du projet.
Alors pourquoi avoir organisé cette soirée littéraire et musicale autour de Bohuslav Reinek ? D'abord pour faire un peu la promotion de Radio Prague auprès du public francophone dans la capitale. Mais si nous avons choisi de parler de Reinek et de son œuvre poétique et graphique, mais aussi de sa vie, de Petrkov où sa famille vit depuis le 19e siècle, c'était parce que c'est un sujet très franco-tchèque. Et en plus, il y a de quoi parler chez Reinek et chez sa femme Suzanne Renaud, chez leurs deux fils, chez leurs petits-enfants. Évidemment, c'est Bohuslav Reinek qui était au centre de notre intérêt. Trois invités de cette soirée ont parlé de lui. Lenka Frolíková, qui est professeure de tchèque à l'université de Nancy et qui a traduit 12 poèmes de Reinek en français, poèmes que nous avons pu entendre au cours de cette soirée. Nous avons aussi invité Jiří Šerich, c'est un très grand spécialiste de l'œuvre graphique de Reinek et c'est quelqu'un qui a connu personnellement l'artiste et sa femme Suzanne Renaud. Enfin, nous avons invité la petite fille de Bohuslav Reinek, Veronika Reinková, qui a fondé une maison d'édition à Havlíčkův Brod. Et il a évoqué, disons, l'histoire plus récente de la famille depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Et n'oublions pas la musique, nous avons aussi invité Karel Vepřek, musicien et journaliste à la radio, qui a interprété cette très belle adaptation musicale des poèmes de Bohuslav Reinek.
Zasviťte na chvíli, zasviťte na chvíli, touze v tmu zakleté, zakleté touze, touze v tmu zakleté, zakleté touze, touze zakleté, zakleté touze.
Comme Magdalena Hrozinková vient de le dire, parmi les invités de la soirée, il y avait aussi Lenka Frolíková, professeure de tchèque en France et traductrice de poésie de Bohuslav Reinek À l'issue de la soirée, Lenka Frolíková a expliqué au micro de Radio Prague pourquoi elle s'était lancée dans la traduction de cette poésie.
C'est grâce à mon travail universitaire à l'Université Stendhal à Grenoble, où je suis partie en 1997. Et j'ai commencé à collaborer avec l'association Romarin, les amis de Suzanne Renaud et Bohuslav Reinek. Ils m'ont encouragée à traduire des poèmes de Reinek parce qu'il existait très peu de traductions de ce poète en français. Bohuslav Reinek a écrit certains poèmes lui-même en français. Ensuite, il y a des traductions de son fils Jiří Reinek, les traductions de Petr Král, les traductions du bohémisant français Xavier Galmiche, et quelques poèmes ont été traduits aussi par Frère Élie de l'abbaye de Seffon. Mais au fait, il y a vraiment très peu de traductions. J'ai traduit une douzaine de poèmes de Bohuslav Reinek aussi pour mes étudiants, parce que j'enseigne la langue et la littérature tchèque, et j'ai voulu que mes étudiants comprennent vraiment bien la poésie de Bohuslav Reinek, et la traduction le permet.
Est-ce que c'est très difficile de traduire cette poésie? Quels sont les pièges de la traduction?
C'est assez difficile parce que la poésie de Bohuslav Reinek est assez délicate. Puis, il y a beaucoup d'images poétiques qui sont très fortes, souvent sans liaison qui serait sur la surface. Il y a vraiment des cascades d'images poétiques. La poésie de Bohuslav Reinek est tellement belle que je pense tout le traducteur se pose justement la question s'il est à la hauteur de traduire cette poésie. Et puis, il faut voir aussi la différence entre la langue tchèque et la langue française. Et pour la poésie, ce qui est important, c'est l'accent syllabique. En français, l'accent est toujours sur la dernière syllabe. En tchèque, l'accent est presque toujours sur la première syllabe. Puis, il faut respecter l'unité du vers. Il faut respecter les rimes, il faut respecter les assonances, il faut respecter les césures. Donc, c'est difficile de faire une bonne traduction où le contenu et la forme feraient vraiment une unité.
Où le lecteur français peut trouver cette poésie? Est-ce qu'il y a des livres, des recueils de poésie qui sont disponibles déjà sur le marché?
En France, c'est surtout l'association Romarin, les amis de Suzanne Renaud et Bohuslav Reinek, qui ont fait une grande œuvre éditoriale en publiant justement des livres de poésie de poètes, mais en publiant aussi leurs traductions. Puis on peut trouver des traductions dans les anthologies de poésie tchèque en France. Et en République tchèque, pour le moment, on ne peut trouver que le livre bilingue où on trouve justement les poèmes de Bohuslav Reinek traduits par Stanislas Markevitch et moi-même. Le livre s'appelle « Dans les espérances solitaires ».
Parlons encore de l'initiative qui s'appelle le Romarin.
Alors, Romarin, c'est une association qui est née en 1993. Tout à fait au début, c'était pour garder la mémoire du poète et graveur Bohuslav Reinek et de la poétesse Suzanne Renaud, au moins en Dauphiné. Puis, leur action est devenue beaucoup plus universelle. Les activités de Romarin ont quitté les frontières de la Dauphiné. Cette association organise des conférences, des soirées littéraires, des colloques, même des colloques internationaux. Et ils ont créé aussi une page web, ozimur.org. Où on peut aujourd'hui trouver le catalogue raisonné de l'œuvre de Bohuslav Reinek. Ce catalogue raisonné est l'œuvre de Annick Ozimur, qui est présidente de cette association. C'est le fruit d'un travail qui dure depuis des années et des années.
C'est la la fin de cette émission sur Radio Prague. Magdalena Hrozinková vous remercie de votre attention. À la prochaine.